France Inter.
France Inter. Le 18-20. Christelle Rebière.
L'eau, c'est la vie, mais l'eau que l'on boit au quotidien ne tient pas ses promesses, en particulier l'eau en bouteille. Un tiers de sa production n'est pas aussi saine qu'elle le prétend. Pour éliminer les matières fécales, les traces de pesticides et autres engrais, les Contrex, Épar, Vitel et autres Perrier ont subi des traitements non conformes aux réglementations, traités pour être décontaminés alors qu'elle est censée couler de source. C'est un problème essentiel quand on sait que plus de 8 milliards de bouteilles d'eau sont vendues chaque année dans notre pays et il y aurait tromperie sur la marchandise. Le groupe Nestlé Waters fait l'objet de 2 enquêtes préliminaires. Le Sénat a lancé, lui, une mission flash pour faire la lumière sur les défaillances de l'État. Alors, ce dernier a-t-il fermé les yeux? C'est l'occasion d'évoquer tous ensemble la qualité de l'eau que nous buvons, y compris celle du robinet. Dites-nous à quelle eau vous vous vouez, si vous prenez des précautions, si votre confiance est entamée. Et bien sûr, toutes vos questions sur le traitement de l'eau en général dans notre pays. Soyez les bienvenus.
Le téléphone sonne. 01 45 24 7000.
Et bonsoir David.
Oui, bonsoir.
Vous nous appelez du Maine-et-Loire.
Voilà, c'est ça. Moi, je consomme de l'eau du robinet depuis tout le temps. Mm-hmm. Pour la simple et bonne raison, parce que pour moi, selon ce que j'ai appris, l'eau du robinet est le produit alimentaire le plus contrôlé en France. Et puis après économiquement l'eau en bouteille est aussi beaucoup plus chère et nécessite le recyclage de ce plastique. Donc voilà pourquoi je fais ce choix-là en famille.
Donc l'eau du robinet avant tout parce que c'est la mieux contrôlée. Alors pour en parler avec vous et avec nous, Marie Dupin, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes journaliste à France Info, auteur d'une enquête pour la cellule Investigation de Radio France sur ce traitement problématique des eaux en bouteille, on va y revenir. Et Yves Lévy, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes professeur émérite en santé publique, santé environnementale à l'université Paris-Saclay, auteur avec Agathe Eusen de « Tout savoir sur l'eau du robinet » publié aux éditions du CNRS. Ça tombe bien, vous pouvez répondre à David. Effectivement, l'eau du robinet, c'est aujourd'hui l'eau la plus surveillée.
Oui, c'est vraiment l'aliment le plus surveillé, avec un double contrôle. La France a cette particularité d'avoir à la fois un contrôle officiel fait par les agences régionales de santé et le contrôle fait par le producteur d'eau. Et ce contrôle permet de vérifier, selon toutes les normes européennes, que l'eau qui va être distribuée est conforme. Et si on a un problème de non-conformité, des procédures sont mises en place de manière à corriger la situation le plus vite possible.
Et il y a beaucoup de critères, en fait, c'est très très encadré.
Oui, il y a une cinquantaine de paramètres qui sont définis au niveau européen par tous les comités d'experts internationaux européens, à la fois des paramètres de microbiologie, des paramètres de chimie, qui permettent de corriger des paramètres qui ont une influence, je dirais un peu la température, le fer, qui ont des influences pas très importantes sur la santé, mais sur le fonctionnement du système, et d'autres paramètres qui sont beaucoup plus importants pour la santé.
Et qui surveille que ces paramètres sont bien dans les clous, si j'ose dire? C'est le fournisseur d'eau ou ce sont les communes?
Alors, le responsable de la qualité de l'eau dans une commune, c'est le maire, qui peut soit gérer lui-même sa distribution de l'eau et sa production, soit le confier à des entreprises. Mais il reste quand même le responsable. Et l'autorité qui surveille la qualité de l'eau, c'est le ministère de la Santé, par ses services déconcentrés, qui sont les agences régionales de santé. Ça veut dire que si vous avez une inquiétude sur la qualité de l'eau qui est distribuée dans votre commune, vous pouvez consulter les analyses qui sont obligatoirement affichés en mairie et qui peuvent être aussi consultés sur le site du ministère de la Santé où vous rentrez le numéro de votre commune, le code postal, et vous avez à ce moment-là le descriptif de toutes les analyses.
Et ce qui est fou, c'est que personne ne le sait en fait.
Alors, en fait, on s'en préoccupe pas trop.
Vérifier.
Et puis c'est vrai que la réputation est toujours de dire l'eau du robinet, j'ai un doute. Mais si on a un doute, il n'y a pas de problème, il faut aller vérifier. Et si la situation était réellement anormale, et que rien n'a été mis en place, alors à ce moment-là, il faut faire en sorte de se révolter.
Bonsoir Gilles.
Oui, bonsoir.
Nous vous écoutons.
Merci, bonsoir. Merci de prendre ma question. Merci avant tout pour la qualité de vos émissions, dont celle-ci que j'écoute depuis mon enfance.
Moi, je suis plutôt
eau du robinet. De temps en temps, j'achète des bouteilles d'eau minérale. Et je me pose toujours la même question, j'entends toujours dire, on l'a encore dit tout à l'heure, que l'eau du robinet est très contrôlée, les eaux minérales, je me pose des questions parce qu'on entend de plus en plus parler des risques d'ingérer des particules plastiques. Donc quel est le risque réel d'ingérer ces particules quand on achète de l'eau soi-disant extrêmement pure?
Alors là, une question pour Yves Lévy, je suppose.
Oui, alors il faut bien savoir que le contrôle de la qualité, dont je parlais tout à l'heure à propos des eaux en bouteille, à propos des eaux du robinet, est exactement le même pour les eaux en bouteille. C'est-à-dire que les agences régionales de santé vont aussi contrôler la qualité de l'eau qui est produite dans les bouteilles. Donc la réglementation oblige à faire ce double contrôle. Après, quand le paramètre ne figure pas dans les normes européennes, ce qui est le cas des microplastiques, ben aujourd'hui, on est vraiment dans une phase exploratoire. On sait que des publications scientifiques ont montré qu'il y avait des microplastiques dans des bouteilles, et en particulier des bouteilles avec du plastique recyclé. Des données, on en a aussi, mais moins dans les eaux du robinet. Donc le problème des paramètres nouveaux, qu'on appelle les paramètres émergents, c'est quelque chose qui est en pleine évolution. Et aujourd'hui, on ne peut pas vraiment se prononcer à la fois sur la toxicité et sur la présence de ces microplastiques. Mais sinon,
mais
en termes de contrôle...
À partir du moment où on achète une bouteille d'eau en plastique, enfin de l'eau dans une bouteille en plastique, il y a des résidus de plastique.
Oui, le problème des résidus de plastique, c'est qu'il y en a dans les bouteilles en plastique, mais on en a aussi dans l'air, on en a dans nos aliments. Et donc, inévitablement, le problème, c'est qu'aujourd'hui, on
est
multi-exposé par ces résidus de plastique, qui est en soi un problème tellement énorme qu'il faudrait y consacrer une émission complète. Mais c'est sûr qu'à partir du moment où on utilise des plastiques, et surtout des plastiques recyclés, on a des petites particules de plastique qui sont relarguées.
Alors, je le disais en début d'émission, les Contrex et par Vittel Perrier ont subi des traitements non conformes aux réglementations et ça a fait l'objet d'une enquête que vous avez révélée, Marie Dupin, pour Radio France, et Le Monde était aussi en collaboration. Exactement. Pourquoi est-ce que la cellule investigation Radio France a décidé d'enquêter sur ce sujet ?
Pourquoi ? Je ne m'attendais pas à cette question. Plutôt comment ? Parce que ça fait, c'est vrai que ça fait plusieurs années qu'on travaille et qu'on a des informations sur la qualité de l'eau du robinet, qui effectivement pose question, et on s'est demandé effectivement ce qu'il en était des eaux en bouteille, et donc on a commencé à enquêter, à chercher, voilà, auprès de différentes administrations, et on a découvert que la situation n'était pas aussi clair que ce qu'on aurait pu imaginer.
Alors, vous allez nous expliquer, parce qu'il faut être précis quand même. Donc, l'affaire commence fin 2020 via la société Alma. Alors, Alma commercialise, je suis obligée de donner le nom des marques parce que ça va parler à nos auditeurs, Cristaline, Saint-Yor, Châtel-Don, Vichy Célestin.
Voilà, exactement. Voilà. Donc, au départ, c'est une enquête de la répression des fraudes. En fait, tout part d'un lanceur d'alerte qui alerte la répression des fraudes en disant, voilà, dans les usines du groupe Alma, il y a utilisation de traitements interdits par la réglementation, parce qu'effectivement, pour les eaux minérales naturelles qui sont censées être vraiment pures, il n'y a quasiment aucun traitement qui est autorisé. Donc, lanceur d'alerte contacte la répression des fraudes. La répression des fraudes enquête et découvre qu'effectivement, il y a des traitements interdits qui sont utilisés au sein du groupe Alma, dans les usines Alma. Et puis, en tombant sur les fichiers de fournisseurs de filtres interdits, la répression découvre qu'il n'y a pas que le groupe Alma qui est concerné. Il y a d'autres industriels, et notamment Nestlé. Voilà. Et donc, Nestlé apprend sans doute via ses fournisseurs qu'il y a une enquête de la répression des fraudes, que peut-être l'entreprise risque de se retrouver dans le collimateur, et donc prend les devants et contacte le ministère de l'économie, pas le ministère de la santé, et demande sollicite un rendez-vous au ministère de l'économie. Et donc, il y a un rendez-vous qui est organisé à Bercy, en plein cœur de l'été, et au mois d'août 2021. Et Nestlé explique au gouvernement que, ils ont recours effectivement eux aussi à des traitements interdits pour purifier une eau qui est contaminée. C'est-à-dire que les traitements qui ont été mis en place n'ont pas été mis en place par prévention, mais bien parce que leur eau était contaminée.
Interdit, qu'est-ce que ça veut dire, monsieur Lévy ? En quoi sont-ils interdits ? Pourquoi sont-ils interdits ?
Parce que il y a deux catégories d'eau en bouteille. On a toujours tendance un peu à mélanger les deux catégories. Il y a les eaux de source et les eaux minérales naturelles. Les eaux minérales naturelles étaient qualifiées par leur pureté originelle, notamment parce qu'elles étaient utilisées dans les cures thermales et que les gens allaient, après la cure thermale, en pharmacie, acheter l'eau de la cure pour se soigner. Et en général, ils rasaient les murs, ils ne le montraient pas trop. Bon, maintenant, les choses ont évolué, c'est devenu un produit commercial. Et donc, il ne faut pas confondre les eaux de source et les eaux minérales naturelles, parce que les eaux minérales naturelles ont une nécessité, une exigence réglementaire d'avoir une pureté originelle. Ce qui veut dire que si on se met à appliquer des traitements, c'est donc que cette pureté a disparu, et donc par conséquent que ces qualités médicales vont aussi disparaître. Mmh. Alors que les autres sources, bon, il y a
parce
quelques
que ces qualités médicales sont encore reconnues
absolument.
Par l'Académie des sciences, c'est ça ?
Par l'Académie de médecine.
De médecine, oui.
Et comme ce sont des eaux qui étaient utilisées et qui sont encore utilisées dans les stations thermales, c'est cet ensemble en fait de propriétés diverses sur la santé, avec des eaux qui sont parfois très minéralisées et d'autres très peu minéralisées, qui sont liées à cette pureté, qui sont une valeur importante. Mm. Si maintenant la pureté disparaît, évidemment la valeur disparaît avec. Les eaux de source ont parfois aussi d'autres traitements qui sont autorisés, notamment quand il y a trop de fer, on peut enlever du fer. Donc il y a quelques traitements qui sont autorisés par la réglementation, mais le reste, non.
Bon, et là, en fait, Marie Dupin, on a retrouvé au départ dans ces eaux, et c'est pour ça qu'il a fallu un traitement, des choses assez dégoûtantes.
Oui, alors c'est effectivement, là, c'est ce qu'on a révélé récemment à travers un rapport de l'ANSES, hein, qui est l'Agence nationale de sécurité sanitaire, hein, parce qu'en fait, les ARS, les agences régionales de santé, se sont rendues compte qu'effectivement, il y avait un problème avec les eaux de Nestlé, donc elles ont demandé à l'Agence nationale de sécurité sanitaire de les aider à expertiser, en fait, la qualité de l'eau, et l'ANSES a travaillé à partir de documents un peu tronqués, enfin c'est ce qu'ils disent, hein, les experts de l'ANSES, des documents que les documents d'autosurveillance de Nestlé, parce que les ARS surveillent l'eau, mais c'est surtout Nestlé qui fait qui surveille lui-même son eau.
Donc si l'entreprise surveille elle-même son eau, ça peut poser un petit problème.
Voilà, et donc l'ANSES s'est basé sur ces documents, et même à partir de ces documents, l'ANSES a effectivement découvert des choses dégoûtantes, comme vous dites. Voilà, donc c'est-à-dire des bactéries, donc on parle d'Escherichia coli, d'entérocoque, enfin c'est des matières fécales.
Des matières fécales, faut le dire.
Voilà, c'est des matières fécales et aussi pas mal de résidus de produits chimiques, hein, dans des normes qui sont parfois au-delà des normes sanitaires. Donc là, on parle de pesticides et également des PFAS, hein, les fameux polluants éternels à l'état de trace, mais de façon généralisée, notamment pour les sources Perrier. Et voilà, mais je peux vous citer un extrait de ce rapport, hein, de l'ANSES. Voilà, les experts de l'Agence nationale de sécurité sanitaire écrivent noir sur blanc que les non-conformités détectées, hein, dans les sources Nestlé attestent d'un niveau de confiance insuffisant pour garantir la qualité sanitaire des produits finis. Les produits finis, on parle bien des bouteilles d'eau, c'est-à-dire que voilà,
celles que je vais acheter dans mon supermarché après.
Exactement, les eaux embouteillées, les produits finis.
Mmh. Et après ce traitement, tout va bien.
Oui, en tout cas, c'est ce qu'affirme aujourd'hui le groupe Nestlé, c'est ce qu'affirment les autorités sanitaires, mais l'ANSES a l'air de poser la question, hein, quand ils disent, quand les experts de l'Agence nationale de sécurité sanitaire disent que les non-conformités attestent d'un niveau de confiance insuffisant pour garantir la qualité sanitaire des produits finis, ça veut dire que, oui, évidemment, les autorités de santé aujourd'hui affirment que les produits qui sont mis sur le marché répondent à toutes les normes et ne posent pas de problème, mais l'Agence de sécurité sanitaire a l'air de s'interroger, de poser la question, et ils disent même que voilà, il y a trop de non-conformités et que ces sources ne devraient plus servir à produire de l'eau minérale naturelle.
Qu'est-ce que vous en dites, Yves Lévy ?
C'est extrêmement inquiétant, dans le sens que dans l'ensemble des ressources en eau qu'on a dans notre pays, les eaux minérales naturelles étaient des ressources qu'on considérait comme extrêmement bien protégées. C'est-à-dire que, par exemple, quand on a un problème de distribution d'eau parce qu'il y a un accident dans une commune, on distribue de l'eau en bouteille aux gens. Mmh. Donc ça veut dire qu'on a confiance dans cette eau en bouteille. Aujourd'hui, le problème qui se pose, c'est un problème de confiance. Donc d'une part, il faut être certain que la qualité est réellement conforme. Ça, c'est le premier élément, et l'enquête de l'ANSES va le dire. Et le deuxième point, c'est de tous nous alerter sur le fait que nos ressources en eau, aujourd'hui, sont contaminées un peu partout. Ça veut dire que celles dont on avait...
Est-ce qu'il existe aujourd'hui de l'eau qui n'est pas contaminée sur notre territoire ?
Ah oui, bien sûr, il y en a quelques-unes, mais...
Par exemple ?
Bah, on peut en trouver en montagne, à très haute altitude, d'accord. À l'endroit où vous aurez...
Mais je parle de l'eau que je vais boire, pas dans le ruisseau, hein, mais à mon robinet, par exemple.
De toute façon, comme je le disais tout à l'heure, les eaux du robinet sont contrôlées pour leur conformité aux normes.
Oui, elles sont aux normes, ça veut dire qu'il a fallu les traiter pour qu'elles soient aux normes.
Bien sûr, et là, elles sont traitées avec toute une série de traitements compliqués dans les usines de potabilisation, adaptés au type de pollution qu'on va rencontrer, pour être conformes aux normes. Mm-hmm. Et conformes
donc,
aux normes sur les paramètres...
dépolluées, on va dire.
Voilà, des dépollutions conformes aux paramètres qui sont les paramètres actuels. Or, quand on parlait tout à l'heure des paramètres émergents, en particulier, il y a des problèmes avec les métabolites de pesticides, qui sont les produits de dégradation des pesticides. Aujourd'hui, on ouvre une nouvelle boîte sur tous les sous-produits de nos polluants, qui ne sont pas actuellement dans la réglementation et qui interpellent beaucoup, à la fois pour l'eau, mais pas que pour l'eau, pour aussi pour les aliments.
Et c'est pareil pour les PFAS, j'imagine.
Absolument. Et le problème des PFAS aujourd'hui, qui est quand même un problème qui avait été découvert il y a un peu plus de 20 ans, déjà dans des ressources en eau en Allemagne, et vous voyez, ça met 20 ans avant de commencer à remuer tout le monde, c'est un problème d'aliments, de pollution de l'air et de pollution des eaux.
Alors, on a Pascal sur WhatsApp qui nous dit « J'utilise de l'eau minérale en bouteille pour mon fils de 8 mois. Y a-t-il un risque pour sa santé ?»
Non, là, aujourd'hui, on ne parle pas de problèmes de santé liés aux eaux en bouteille.
Oui, il faut être bien clair là-dessus, parce que sinon, on va affoler tout le monde. Et c'est vraiment pas le but de cette émission. Le but, c'est d'expliquer quelles ont été les difficultés. Voilà pourquoi il y a eu une alerte. Mais on peut boire n'importe quelle eau aujourd'hui, qu'elle soit au robinet ou en bouteille, sans faire courir de risque à notre santé.
Absolument. Et il faut se promener dans le monde pour s'apercevoir que, en Europe de l'Ouest, et en particulier en France, les investissements qui ont été faits depuis les 80 dernières années font que moi, je bois l'eau du robinet sans aucune inquiétude partout en France.
Partout en France.
Ce qui n'est pas le cas dans beaucoup d'endroits dans le monde.
Oui.
Donc, il y a beaucoup d'endroits dans le monde où on est bien content de trouver des eaux en bouteille parce que l'eau n'est pas potable localement. Donc, aujourd'hui, on n'a pas révélé un problème de risque lié à l'eau en bouteille en France. On a révélé un problème de doute.
Oui.
Et en particulier de tromperie sur la fabrication de ces bouteilles. Donc ce doute doit être levé le plus vite possible.
Alors la tromperie, y a-t-il tromperie sur la marchandise, Marie Dupin ? On est au cœur du problème.
Oui, la tromperie, elle est assez manifeste. Après, évidemment, il y a toujours la présomption d'innocence, etc. Donc, oui. Mais oui, la tromperie est assez manifeste dans cette affaire. C'est-à-dire que Nestlé n'avait pas le droit de traiter ses eaux, d'utiliser tous les types de traitements qui sont utilisés pour l'eau du robinet. Donc on parle de filtre à charbon actif, de filtre UV, etc. Nestlé a utilisé ces traitements pendant des années, a caché ces traitements aux autorités sanitaires, dans des armoires électriques. Nestlé a donné de l'eau à contrôler aux agences régionales de santé en faisant croire que c'était de l'eau pure qui vraiment sortait de la source. En fait, c'était de l'eau qui avait préalablement été traitée avec certains traitements. Et donc, oui, a priori, il y a une enquête préliminaire qui est ouverte pour tromperie dans l'Est, hein, pour l'usine des Vosges.
Oui.
Toujours pas d'enquête ouverte pour l'usine de Vergès, dans le Gard, hein, pour l'usine de Perret. Donc, on comprend pas trop pourquoi il y a une enquête ouverte pour une usine et pas pour l'autre, alors que le même type de tromperie a été mise en place. Mais oui, a priori, la tromperie est plutôt manifeste.
Est-ce qu'on peut imaginer que c'était une pollution de l'eau ponctuelle ou pas ? Ou finalement c'est structurel ?
Alors c'est
Marie Dupin.
Ponctuelle et régulière, je dirais, voilà, qui peut être liée à des événements climatiques, notamment lors d'inondations. Hein, voilà, c'est ce qui ressort des rapports qu'on a pu consulter, des différents rapports qu'on a pu consulter, mais quand même régulière, c'est-à-dire que ça revient très régulièrement.
Yves Lévy ?
Oui,
c'est structurel, désormais.
Si ça avait été vraiment ponctuel, les traitements auraient été enlevés après l'épisode. Donc le fait que les traitements soient en place prouve que le problème devait arriver assez régulièrement.
Mais c'est quand même assez étonnant parce que pour fabriquer ces eaux, il y a des forages assez profonds quand même. Donc a priori, on se dit qu'on peut retrouver des matières fécales. Ça paraît assez bizarre à ce niveau de profondeur, non ?
Non,
ou alors je n'y connais absolument rien et j'ai rien compris.
Non, pas du tout. En fait, vous pouvez trouver sur un même site différents types de qualités d'eau dont les forages sont à différents niveaux de profondeur. Donc ça peut être entre 10 et 30 mètres de profondeur ou à plus de 100 mètres de profondeur. Donc on n'aura pas les mêmes qualités d'eau. Et c'est ce qui fait aussi la richesse de ces diversités d'eau qui sont commercialisées. C'est qu'on peut en acheter en bouteille extrêmement peu minéralisées et d'autres qui sont très minéralisées. Et la différence de profondeur peut être importante. Donc qu'il puisse y avoir des infiltrations à partir du sol dans certaines de ces ressources, oui, c'est tout à fait possible. C'était le cas autrefois.
On écoute tout de suite une note vocale que vient de nous laisser Marie-Alice.
Bonsoir, vous parlez d'eau contaminée, mais j'aimerais bien comprendre comment l'eau se contamine.
Yves Lévy.
Alors, la contamination de nos ressources en eau, elle provient en fait de tous les déchets de toutes nos activités. Alors, ça peut être des contaminations naturelles. C'est par exemple le cas dans certains pays dans le monde où, à force de tirer trop sur l'eau souterraine, on attire de l'arsenic qui remonte du sol. Donc ça, c'est de l'arsenic naturel qui provient des roches et le fait de trop pomper l'eau attire l'arsenic. C'est le cas, par exemple, au Vietnam ou au Bangladesh. Les contaminations liées aux activités humaines, en fait, elles se dispersent partout dans la nature, soit volontairement quand on jette des pesticides dans les champs, soit involontairement parce que c'est tous nos déchets qui disparaissent dans des dépôts ou des dépôts sauvages ou autres. À chaque fois qu'on a une activité industrielle, il y a forcément des eaux usées qui ressortent de ces industries. Et puis, tout doucement, ça soit va partir à travers les flux dans les eaux courantes, c'est-à-dire les rivières, jusque dans la mer, malheureusement, qui récupère tout, ou alors ça s'infiltre dans le sol, et dans le sol, il y a beaucoup de bactéries qui arrivent à éliminer une partie de tout ça, mais elles ont des limites. Il y a un moment, elles n'en peuvent plus. Si on prend le cas des nitrates en Bretagne, par exemple, c'est un déversement volontaire d'engrais. Depuis plus de 40 ans, on connaît le problème. On continue à remettre des nitrates en excès. Les bactéries arrivent à en éliminer une partie, mais elles sont complètement saturées, elles n'arrivent pas à aller plus loin. Et donc, à chaque fois qu'il pleut, ça s'infiltre dans le sol et on retrouve des nitrates dans les rivières et dans les eaux souterraines. Et qu'est-ce qu'on fait? Ben, on met en place une usine pour traiter les nitrates, pour fabriquer de l'eau potable. Et donc, finalement, on paye pour les nitrates qu'on met dans les champs et on repaye pour l'usine qui va nous servir à faire de l'eau potable. Alors que si on protégeait les ressources, on aurait moins besoin de traiter en aval.
Et ce serait plus cohérent. On parle de la qualité de l'eau que nous buvons si vous êtes en train de nous rejoindre sur France Inter tout de suite. C'est le téléphone sonne jusqu'à 20h. La qualité donc de l'eau que nous buvons, l'eau du robinet ou l'eau en bouteille. Un Français sur deux quand même boit de l'eau en bouteille, de l'eau minérale, ce qui est quand même assez exceptionnel. On est l'un des pays au monde, je crois, où on boit le plus d'eau en bouteille. On a un appel de Blandine qui est en Charente-Maritime. Bonsoir.
Oui, bonsoir. Vous m'entendez, oui?
Oui, nous vous écoutons, Blandine.
Donc, je suis en Charente-Maritime, c'est une région qui est très calcaire. Oui. Et moi, j'ai toujours bu l'eau du robinet et je voulais savoir s'il y avait un risque pour la santé de boire du calcaire, parce qu'il y a des dépôts de calcaire dans les récipients quand je laisse évaporer de l'eau.
La réponse d'Yves Lévy.
Non, il y a pas de problème. En fait, dans le monde entier, vous avez des eaux qui contiennent très peu de calcaire et d'autres qui en contiennent beaucoup. Et les études épidémiologiques qui ont été faites montrent qu'il n'y a pas de différence. D'ailleurs, pour les gens qui ne boivent pas de lait, qui ne mangent pas de fromage ou de yaourt, et qui ont donc un très faible apport en calcium, il est plutôt conseillé de boire une eau avec du calcaire qui va apporter du calcium. Non, l'inconvénient, c'est un inconvénient, en fait, lié à ce que vous avez évoqué, c'est-à-dire les casseroles qui deviennent blanches, le linge qui devient un peu rêche, et donc dans ces cas-là, il existe des systèmes d'adoucisseurs d'eau qu'on peut installer à son domicile.
Ah, ben justement, on va en parler, oui.
C'est bon, ça coûte un certain prix, mais il faut toujours conserver un robinet dans la cuisine qui ne soit pas traité, de manière à avoir de l'eau potable non traitée, qui contiendra du calcium, et c'est très bon pour la santé de tout le monde.
Allez, on prend un nouvel appel. AV10 au standard, bonsoir.
Oui, oui bonsoir. J'avais une question par rapport au filtre à eau à gravité de marque anglaise. Je ne sais pas si je peux citer les fabricants.
Allez-y, tant qu'on y en cite toutes les marques ce soir.
British Birkenfield, à pas confondre avec Brita.
Ouais.
J'ai pas trouvé les informations que je cherchais quant à la filtration des polluants chimiques et résidus de médicaments. On dirait que les sites des fabricants sont volontairement flous sur la question et j'ai pas trouvé non plus d'études sérieuses qui tranchent cette question. Donc à savoir des résidus de pesticides, de médicaments qu'on trouve dans l'eau du robinet.
Yves Lévy.
Alors, ce qu'il faut bien savoir, c'est que tous ces dispositifs qui sont commercialisés sont, comme vous le dites, effectivement souvent assez flous. C'est-à-dire, sur l'emballage, il est bien écrit, on traite tout, on traite les pesticides, le mauvais goût, le calcium, le plomb, et tout est ajouté. Sauf que derrière, il n'y a pas de système de vérification qui permet de garantir aux consommateurs que ce produit est réellement efficace. Donc, ça veut dire qu'on ne peut pas le savoir. Et 60 millions de consommateurs avaient fait une enquête spéciale il y a un peu plus d'une dizaine d'années. Peut-être que vous pourrez le retrouver dans les archives, où ils avaient comparé ces différents types de systèmes de filtration à domicile, en montrant que, bon, pour le calcaire, certains d'entre eux étaient relativement efficaces, mais pour le reste, et pour un certain nombre de pesticides et d'autres produits, ça marchait pas du tout. Donc, voilà, on peut pas non plus croire
donc
tout les, ce que
les carafes filtrantes avec une cartouche de charbon actif, c'est pas suffisant ?
Non, c'est parce
pas
qu'en fait,
performant.
Le problème, c'est que si la performance existait et était démontrée par la présence dans ces boîtes d'un certificat fourni par un laboratoire officiel, indépendant et tout ça,
on
pourrait le croire.
Ça.
Mais il n'y a pas ça. Mmh. Et le charbon actif qu'on utilise dans les usines d'eau potable est un charbon très particulier, extrêmement cher, qui subit des traitements spéciaux et qui est extrêmement contrôlé. On ne choisit pas n'importe lequel.
D'accord.
Donc, ça veut dire que quand on met du charbon actif, oui, ça peut fonctionner, à condition de mettre le bon charbon et de le considérer dans un système d'organisation bien surveillé et bien contrôlé.
Et nous, les profanes, on ne sait pas forcément qui a choisi le bon charbon. Hein, on ne saura pas. On parle aussi de l'osmoseur. Osmoseur, c'est ça, hein.
Ouais.
C'est l'appareil de filtration qu'on installe directement sur son robinet. Ça marche ou pas, ça ?
Alors, l'osmose, c'est un procédé de traitement à base de membrane qui est utilisé pour le dessalement de l'eau de mer. Donc, par exemple, il y a beaucoup de pays dans le monde où on met de l'osmose pour dessaler l'eau de mer. Ça consomme excessivement d'énergie, mais c'est un traitement extrêmement sophistiqué qui élimine tout dans l'eau, enfin presque tout dans l'eau.
Mm-hmm.
Donc, ça veut dire que l'eau qui sort de ces dispositifs doit être reminéralisée parce qu'elle n'est pas potable.
D'accord.
Il n'y a plus rien dedans, il ne faut presque plus rien. Or, les petits dispositifs qui sont vendus, installés dans sa cuisine, il n'y a pas les systèmes de pompage compliqués qu'on peut trouver dans des usines industrielles. Donc, ça consomme beaucoup d'eau, parce que pour produire un litre, il faut derrière avoir pas mal de litres qui partent à l'égout. Donc, ça coûte à la fois pour l'installation, ça coûte pour l'entretien, et ça fabrique une eau qui est une eau qui est bien pour mettre, enfin, qu'on mettait autrefois dans les batteries des voitures ou dans son fer à repasser, mais pas pour la boire.
D'accord. Une nouvelle question de Sébastien au standard, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Vous êtes dans le Gard.
Voilà, alors, c'est pas vraiment une question, c'était plutôt une réflexion. En fait, j'ai été confronté à plusieurs reprises à la difficulté d'avoir un accès à de l'eau dans des lieux publics, en particulier dans les gares. J'ai toujours une gourde avec moi, que j'aime bien remplir, et il y a des situations dans des lieux publics où on se retrouve obligé d'acheter une bouteille d'eau, en plastique évidemment, pour avoir un accès à de l'eau. Et je me faisais la réflexion de savoir si ce serait pas intéressant, tout simplement de réfléchir à une loi. Il y a bien des lois pour l'accès aux personnes handicapées, c'est une très bonne chose. On devrait avoir aussi des lois pour l'accès à l'eau, et que les lieux publics soient de la même manière contrôlés pour avoir une forme d'obligation de mettre un accès à l'eau pour tous les usagers.
Mmh. Bon, là, c'est plutôt un point de vue, effectivement. Yves Lévy, qu'est-ce que vous en pensez ?
Oui, bien sûr. En fait, la première fois que j'étais allé aux États-Unis quand j'étais jeune, j'étais très étonné de trouver des fontaines gratuites partout où il suffisait d'appuyer sur un bouton et d'avoir de l'eau. Et on voit ça beaucoup, dans beaucoup de lieux publics aux États-Unis. Bon, il ne faut pas oublier aussi qu'à Paris, par exemple, les fontaines Wallace, c'était leur fonction.
Oui, c'est vrai.
Elles étaient libres d'accès. Il y avait un petit gobelet, les gens venaient se servir. Bon, le problème, c'est que le gobelet servait à tout le monde, ce qui était un peu, en termes d'hygiène, pas terrible. Donc aujourd'hui, il existe encore des fontaines Wallace. Donc Paris a fait un effort sur ce plan, mais effectivement, il faudrait que la chose se développe un peu partout,
Est-ce
à condition de contrôler la qualité de l'eau.
Est-ce qu'au fond, et là je me tourne de nouveau vers vous Marie Dupin, le système économique de l'eau en bouteille arrive un peu au bout de son modèle en ce moment ?
C'est pas à moi de le dire, mais en tout cas ce qui est sûr, c'est qu'il y a beaucoup de questions que cette affaire révèle énormément de questions sur l'industrie de l'eau en bouteille. Effectivement,
et la puissance aussi de l'industrie.
Oui, la puissance, puisque effectivement...
Nestlé a fait pression sur le gouvernement.
Voilà, donc ça c'est effectivement un premier point. Et l'autre point, c'est effectivement la question de la transparence. Parce qu'aujourd'hui, on a encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de questions qui se posent sur la qualité des eaux du groupe Nestlé, sur la présence ou pas de traitement encore dans ces usines, interdits ou pas, sur l'utilisation encore ou pas de certains captages contaminés pour produire de l'eau minérale en bouteille. Et on a envoyé avec mon collègue du Monde, Stéphane Foucard, nos question à la Direction générale de la Santé le 2 avril, donc avant la publication de notre article sur le rapport de l'ANSES. Et on n'a pas eu de réponse du ministère de la Santé. Mmh. Et c'est vrai que tout ça, ça nous interroge parce qu'on est le 17 avril et voilà, on attend toujours les réponses. Donc la DGS nous a dit qu'elle allait nous faire une réponse officielle voilà, dans les prochains jours, mais on l'attend toujours. Et on est assez surpris de voir que ça prenne autant de temps de nous apporter des réponses voilà, sur des questions très précises. Et on n'en a pas fini avec cette affaire Nestlé. Et il y aura sans doute de nouvelles révélations parce que y a beaucoup de questions qui se posent. Et ce n'est pas seulement nous, journalistes, qui nous posons Bien ces sûr. Questions. C'est nos auditeurs qui nous écoutent. C'est tous les consommateurs Absolument. D'eau en bouteille qui demandent des réponses à leurs questions. Et c'est vrai que je suis assez surprise d'entendre tous ces consommateurs qui sont de bonne volonté, qui veulent installer des osmoseurs, qui veulent acheter des carafes pour purifier leur eau, alors que bah on se dit qu'en fait c'est les autorités sanitaires qui devraient faire en sorte que cette eau soit bonne pour la santé et ne pose pas de problème.
Alors je précise aussi qu'on a essayé de joindre Nestlé Waters, on leur a même lancé une invitation à dialoguer avec vous dans l'émission, ils n'ont pas souhaité intervenir dans le téléphone sonne, mais ils nous ont envoyé un communiqué qui dit notamment que la sécurité alimentaire et la qualité des eaux minérales naturelles de Nestlé Waters France ont toujours été garanties. Alors on a plein de questions encore, Sébastien sur l'appli qui nous dit, sait-on traiter les PFAS dans l'eau du robinet, Yves Lévy.
Oui, la réponse est oui. La très grande majorité des PFAS, oui, on sait la traiter avec du charbon actif ou même avec des membranes d'osmose. Le problème, c'est qu'à chaque fois, c'est un coût supplémentaire. Donc, en fait, ce qu'on évoque ce soir et le problème des eaux minérales naturelles qui étaient protégées, c'est un révélateur qui doit tous nous faire prendre conscience que nos ressources en eau sont un bien extrêmement précieux. Hein, vous rappelez-vous la fontaine au milieu du village autrefois, quand la fontaine s'arrêtait, c'était la vie du village qui s'arrêtait. Aujourd'hui, on a nos ressources en eau qu'on a toujours considérées comme un débarras de tous nos déchets, qui nous revient en pleine figure, même celles qu'on pensait protéger. Donc, c'est là où nous devons tous regarder nos ressources en eau.
Prendre conscience qu'elle va se raréfier, cette ressource en eau.
Absolument. Alors, en plus, le problème du changement climatique fait que... Alors, évidemment, parler de ça en ce moment où il pleut partout, c'est difficile, mais presque partout. Mais les prévisions...
Mais il ne faut pas confondre climat et météo, vous savez bien.
Le problème de la prévision des perspectives à l'échéance 2050 font qu'on va avoir des très gros problèmes de quantité d'eau dans certaines régions en France. Donc on a fait un rapport sur ce sujet à l'Académie des technologies et on voit bien qu'il y a des zones qui vont être en pénurie d'eau, ce qui veut dire qu'on doit se préparer aujourd'hui aux solutions à mettre en œuvre pour ce qui va se passer dans 15 ans. Parce que ce manque d'eau va faire que les gens vont vouloir s'approprier l'eau, ça va faire des conflits d'usage qui ont déjà commencé.
Il y a déjà eu d'ailleurs, Marie Dupin, des conflits d'usage avec les minéraliers, si j'ose dire, au moment de la grande sécheresse l'été dernier. Il y a eu des conflits, on les a accusés de forer justement en disant il faudrait qu'ils forent un petit peu moins.
Ah oui, bien sûr. Et d'ailleurs,
tout le monde continue à avoir accès à l'eau.
Et il y a des associations qui, notamment dans les Vosges, qui ont lancé même des procédures judiciaires parce qu'elles accusent notamment justement le groupe Nestlé d'avoir eu recours à des forages illégaux. Donc il y a des procédures judiciaires qui sont en cours, voilà, puisqu'effectivement les industriels sont parfois accusés d'avoir foré là où ils n'avaient pas le droit.
Et autre chose, Yves Lévy, tant qu'on parle du réchauffement climatique, est-ce que ça veut dire que ça peut altérer la qualité de l'eau aussi ?
Absolument. C'est-à-dire que vous imaginez en plein été, quand les niveaux d'eau sont très bas, en fait, la quantité d'eau d'égout qu'on rejette est toujours la même. Ça n'a pas changé parce que nos activités, à part pendant la période de vacances où ça baisse un peu, mais sinon, l'activité continue à rejeter des égouts. Donc, ça veut dire que la concentration en polluants va être plus importante. Mmh. Par ailleurs, l'agriculture va sûrement devoir utiliser d'autres types de pesticides à cause des problèmes de parasites qui remontent à cause du réchauffement. Donc, on a toute une série d'éléments qui font qu'on a une association entre ce problème de changement climatique et une dégradation de la qualité d'eau dans certains endroits.
On va prendre Daniel en ligne qui est dans l'Aveyron. Bonsoir Daniel.
Oui, bonsoir. Je pense que j'ai pas beaucoup de temps.
Allez-y vite.
Alors, j'ai construit une citerne de 35 000 litres dans ma maison. Donc avec récupération des eaux de pluie, j'ai installé des filtres 100 microns, 25 microns, 5 microns et un aérateur pour éviter les anaérobies. Je voudrais bien savoir, je bois avec ma famille de l'eau de citerne, je n'en fais pas boire aux autres, sauf s'ils le veulent, et j'ai mon microbiote qui fait que, à part les 2-3 premiers jours où j'ai eu une gastro, je ne vous réveille pas les filles. Je voudrais savoir... Quels sont les risques personnels que j'ai de faire ça
à boire de l'eau de pluie, Yves Lévy.
Non, mais ça va dépendre, en fait, comment on récupère l'eau, c'est-à-dire la pollution qui peut venir des toitures, parce qu'il y a les déjections d'oiseaux, par exemple, qui se déposent sur les toitures. Vous pouvez avoir une toiture qui contient des matériaux qui relarguent, par exemple, des métaux. Hein, c'est le cas à Paris, avec beaucoup de zinc qui est relargué par les métaux. Donc, la surface de collecte de l'eau est déjà un problème. Ensuite, il y a le stockage. Est-ce que le matériau de stockage ne relargue pas des éléments dans l'eau. Et puis, il faut que l'ensemble de la citerne soit bien protégé, en particulier contre les proliférations de moustiques. Et donc, le mieux, c'est quand même, en aval, de mettre un traitement minimum avec du charbon actif et un traitement ultraviolet pour être sûr de vous enlever toutes les bactéries et les virus. Et comme ça, ça sera beaucoup mieux. Et puis, de faire contrôler l'eau assez régulièrement par un laboratoire pour les paramètres de base.
Voilà, vous avez votre réponse. On prend tout de suite Fabrice. On écoute Fabrice qui vient de nous envoyer une note vocale.
Bonjour, je voulais savoir justement par rapport aux résidus médicamenteux dans l'eau du robinet ou les résidus de type isotope quand on fait des examens type scanner. Est-ce que les stations de traitement savent les éliminer ?
Yves Lévy.
La réponse est non, pas totalement. C'est-à-dire qu'en fait, le problème de la pollution de l'environnement par les résidus de médicaments est un problème énorme, qui a été révélé il y a très longtemps maintenant. Et les résidus de médicaments viennent rejoindre la masse des autres polluants dont on a parlé précédemment, les résidus de pesticides, les plastifiants dont on n'a pas parlé, mais qui constituent une pollution absolument gigantesque, les PFAS, etc. Et les stations d'épuration qui étaient construites autrefois pour éliminer les matières fécales
n'étaient pas faites pour enlever ça.
Oui. Donc, elles en enlèvent une bonne partie, heureusement, mais quand on dit qu'on les enlève, elles les enlèvent pour les mettre dans les boues de stations d'épuration qui, parfois, sont mises dans les champs. Donc, on prend la pollution d'un côté, on la remet de l'autre. Et globalement, il y a une élimination qui est quand même assez importante, mais il en reste en aval. Et donc, ça pose un problème essentiellement d'écotoxicologie. Pour tout ce genre de réflexion autour de la multi-exposition aux polluants chimiques, on a publié avec la Fondation de l'Académie de médecine un document de synthèse et un glossaire que vous pouvez télécharger sur le site.
Et ce sera le mot de la fin. Et merci infiniment Yves Lévy. Et merci à vous Marie Dupin. C'était une émission passionnante. Je pense qu'on en fera d'autres parce qu'il y avait encore beaucoup, beaucoup de questions au standard.